bonjour à tous, bienvenue à cette 42e édition du 33-45. Mon nom est Pierre-Luc Delisle et si c'est votre première fois, le 33-45 est un podcast dans lequel on fait jouer des vinyles de ma connexion selon une thématique particulière qui est différente à chaque semaine. Et aujourd'hui, la thématique va être le vendredi 13 et les superstitions. Vous comprenez que j'ai pas choisi ce thème-là par hasard. Le jour de la publication de ce podcast, c'est un vendredi 13 qui peut sembler quelque chose de rare, mais en fait, des vendredis 13, hein, il y en a environ 2-3 fois par année. Donc, généralement pour deux par année. Et je sais pas si pour vous, c'est quelque chose que vous considérez comme étant un jour malchanceux, mais je dois vous avouer que pour en avoir vécu au moins une... au moins près de 80 en fait dans ma vie des vendredis 13. Et je suis encore vivant et je me souviens pas d'un vendredi 13 qui a été très pénible pour moi. Mais si jamais vous avez une histoire de vendredi 13 à me conter, là, je serais bien heureux de l'entendre sur mon Facebook, c'est-à-dire le Facebook du 3345. Vous allez sur facebook.com/le3345, vous le recherchez. Grâce à vos commentaires et grâce à vos likes et tout ça, il est de plus en plus répertorié sur Facebook. Et facile d'accès. Bref, le vendredi 13, c'est les origines de ça sont assez complexes. Hein. En fait, le chiffre 13, premièrement, a toujours été quelque chose qui était maudit dans la Bible. Donc, souvent, on n'a que pensé à Judas qui est le 13e apôtre et d'autres choses comme ça. Donc, ça a toujours été un chiffre maudit. Et le vendredi en tant que tel, ben c'est sûr que le vendredi saint, c'est la mort de Jésus-Christ, donc également un jour qui est considéré comme étant malchanceux. À une certaine génération, les gens n'avaient pas le droit de manger de viande tous les vendredis. Ils mangeaient du poisson qui est de la viande pareil, mais bon. Ils ne mangeaient pas de viande le vendredi, justement, pour montrer à quel point ce jour-là a de l'impact dans le christianisme. Et il y a aussi, en fait, c'est souvent associé à la mort d'un homme qui s'appelait Jacques de Molay. Je sais, j'ai la note, là, je ne l'ai pas appris par cœur, qui était en fait de membre de l'ordre un ordre religieux, donc une espèce de milice militaire. Et quand il est mort, ça a comme fait la fin, en fait, à son arrestation, en fait, ça a provoqué la chute de cet ordre-là, donc de cette milice-là, qui était une milice christianiste, une milice religieuse, là, je ne sais pas comment on dit ça, là, je connais pas tout. Et l'autre mot que j'ai noté aussi, ça a un mot, hein, cette peur devant les 13-là. Donc, la folie d'entre 13 s'appelle la, ça se peut que je m'y reprenne deux fois, la paraskevidescatriaphobie. Ah, je l'ai eu du premier coup, je suis content. Mais bon, pour moi, ce n'est qu'une superstition. Et on va commencer en chanson, justement, avec une chanson qui nous parle de superstition, qui est tellement une bonne chanson, d'ailleurs, qui est Superstitions de Stevie Wonder, qui est enregistrée par vraiment plusieurs artistes. Et je vais vous la faire jouer. Et j'ai vraiment fait exprès de calibrer ma table tournante pour être capable d'aller chercher toutes les saveurs sonores qui sont derrière cette chanson-là. Je trouve que c'est une chanson qu'on entend vraiment trop souvent dans... c'est le genre de toune qui est devenue une toune d'épicerie, je trouve. Parce que, tu sais, c'était écrit en 72, et d'ailleurs, accusé le vinyle, là, il y a 50 ans, fait qu'il y a un peu joué, ça se peut la griche un peu. Écoutez, c'est tellement riche comme chanson. Tu sais, c'était à une époque où ce que les synthétiseurs, c'est pas ce que c'était aujourd'hui, puis que l'informatique, ça n'existait pas non plus. Fait que Stevie Wonder, qui est, rappelons-le, un artiste en plus qui était aveugle, qui avait une ouïe exceptionnelle, qui nous arrive avec un succès comme ça, c'est honnêtement, c'est magistral. Puis j'ai vraiment hâte de vous le faire entendre. Donc, on va commencer avec ça, Superstition. Puis on va en reparler un peu tantôt de cette chanson-là. We'll be right back. quelqu'un me demanderait la définition de quelque chose de catchy, je pense que j'y donnerais comme définition, comme tâche d'écouter cette chanson-là. Le petit beat, là, qui suit toute la toune, puis qui est quand même assez répétitif, il est tellement, mais catchy, là, ça n'a pas de sens. Puis il y a quelque chose qui est vraiment drôle avec cette chanson-là, que peu de gens savent. Je sais pas si vous connaissez l'artiste qui s'appelle Jeff Beck. Jeff Beck, c'est un guitariste prodige qui a eu son propre groupe par la suite, mais qui a été, en fait, dans un groupe, un super groupe qui s'appelait les Yardbirds, qu'on se rappelle beaucoup à cause de la participation de Jimmy Page, en fait, parce que c'est un peu le groupe qui était un peu pré-Led Zeppelin. Mes amis de la cassette ont parlé des Yardbirds, d'ailleurs, dans leur podcast sur Led Zeppelin. Je vous salue en passant. Et il y avait trois guitaristes prodiges qui ont transigé par ce groupe-là. C'était Eric Clapton, ensuite Jimmy Page et Jeff Beck, en fait, qui ont tous transigé par les Yardbirds. Et la chanson Superstition, ce qu'on vient d'entendre, en fait, c'était une collaboration entre Jeff Beck et Stevie Wonder, et au départ, elle était supposée d'être sortie comme telle, mais les producteurs, en fait, ont décidé, ils ont exigé, si on veut, que Stevie Wonder la sorte tout seul, et quelques temps après, Jeff Beck a fait sa version, qui est beaucoup plus rock de la chanson Superstition. Mais ce qui est encore plus spécial, et on va rester un peu dans le mysticisme et un peu dans la superstition, c'est que Jeff Beck lui-même, dans son premier album solo, après avoir quitté les Yardbirds, avait fait une chanson qui s'appelle I Ain't Superstitious, qui s'appelle donc Je ne suis pas superstitieux, qui n'est pas une toune qu'il a écrit. Je pense que c'est une toune qui est quand même une espèce de rock là, bien connu, qui était souvent repris par les artistes de toutes sortes. Et ben c'est ça, il l'avait joué. Fait qu'au lieu de vous faire passer la version de Jeff Beck pour la comparer, vous irez le fouiller en fait sur internet si vous voulez l'entendre celle-là. Je vais vous faire jouer quelque chose d'un peu plus rare qui s'appelle I Ain't Superstitious de Jeff Beck. Et d'ailleurs, si vous êtes fan de musique un peu plus, comment on va dire, à la Jimi Hendrix, quelque chose qui est plus rock garage, je pense que vous allez apprécier.
Bad luck ain't got me so far.
C'est rare, c'est un solo de drum sur une tune qui n'est pas une tune live. Oh yeah, c'était Jeff Beck. Et peut-être que vous l'avez reconnu, Jeff Beck avait comme quasiment employé Rod Stewart avant sa carrière solo. Fait que vous avez pu entendre Rod Stewart avec une voix légèrement moins maganée que celle avec laquelle on l'a connu. Voilà. Mais moi, le vendredi 13, j'ai pas de superstition pour ça. Mais j'ai plutôt, comment dire, une tradition. Ceux qui se connaissent ont peut-être reconnu un peu en trame de fond le thème le classique du de Friday the 13th, de Vendredi 13, la fameuse série de films. Personnellement, je suis quand même un fan de Jason, qui a une histoire qui est quand même étrangement assez riche de film en film, et que souvent les gens ne la savent pas, fait que ça me tente de vous la conter. Peut-être que vous la connaissez déjà, mais je suis sûr que je vais la faire découvrir à certaines personnes. En fait, l'origine de Jason, le monstre, en fait, c'est... Puis là, je vais spoiler, je sais pas si c'est correct de spoiler des films vieux de 40 ans, mais honnêtement, je pense que c'est correct. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jason, son origine et la malédiction de Jason, c'est qu'au Crystal Lake, il y avait des jeunes moniteurs qui s'occupaient d'enfants, comme dans tous les camps de vacances, mais un jour, ils ont ignoré un peu un souffre-douleur qui était un jeune enfant handicapé qui se trouvait à être Jason. Et pendant que les moniteurs qui étaient censés le surveiller forniquaient dans leur chalet puis entre eux autres, ben le petit Jason en fait s'est noyé dans le lac Cristal. Et par les années subséquentes, en fait je sais pas si c'est la même année, il faudrait que j'écoute le premier film, mais il y a eu une série de meurtres de moniteurs, comme si la malédiction était pour hanter. Et à la fin du premier film, en fait, c'est tout à fait... on comprend en fait que c'est la mère de Jason qui est venue tuer les enfants pour venger son fils. Donc, il n'y avait pas encore toute cette mythologie-là du mort-vivant. Elle était esquissée, mais Jason, en fait, n'avait jamais tué personne. C'est dans le deuxième, troisième film que la malédiction arrive. Et c'est seulement à partir du troisième film qu'il a son masque de hockey qu'il trouve. Parce que dans le premier, c'est pas lui qui tue. Dans le deuxième, il y a comme une espèce de tête d'oreiller sur la tête. Et dans le troisième, c'est là qu'il trouve son masque, en fait, qu'un jeune avait à un party. Donc c'est ça qui fait en sorte qu'il y a un masque de hockey et que c'est devenu vraiment là, sa signature. Ça et la machette, là, c'est toujours des images qui sont très associées à Jason. Et quelque chose de très drôle aussi, c'est que le 4 s'appelait le chapitre final et que des films dans Jason, ils en ont fait... ils en ont fait 8, Le Châtiment de Jason 9, Jason contre Freddy 10, et ils en ont fait un autre comme une espèce de reboot, ça en fait 11 en tout. Tous de qualité très inégale. Certains... En fait, il faut apprécier le genre de ces films-là. On peut pas écouter ça puis noter ça comme un film qu'on écouterait au cinéma tous les jours. Là. C'est du divertissement, c'est du bonbon. Honnêtement, maintenant, ça fait plus peur à personne, bien que ça nous faisait peur peut-être quand on était enfant. Moi, présentement, je vous dirais que quand j'écoute ça, c'est vraiment pas pour avoir peur. Là. C'est ça. Donc, il y a le jeu vidéo aussi de Friday the 13th que j'aime beaucoup. Et je suis capable de tuer Jason en passant, en gardant tous mes moniteurs vivants et tous les petits-enfants des cabines sur le lac vivants également. Donc ça, j'ai peut-être intéressé 5 personnes en disant ça, là. Mais si vous voulez une preuve que je suis capable de le faire, ça va me faire plaisir de vous montrer que je suis capable de battre Jason 3 fois à Friday the 13th au Nintendo. Mais bon, hey... c'est en fait dans le, je pense que c'était le 6e, la chanson thème était faite par notre grand ami Alice Cooper. Vous savez, mon amour inconditionnel de Alice Cooper, j'ai tous ses albums. Tu sais, des fois dans ma collection, c'est un peu dur d'aller prendre un disque, puis de le tirer, puis de le trouver, parce qu'ils sont tous cordés. Mais Alice Cooper, quand je veux l'écouter, il n'y a pas de problème, il y a un hostie gros mouton d'Alice Cooper dans la deuxième case de ma collection. Fait que sont assez faciles à spotter. Et j'ai été faire jouer en fait la chanson thème du film qui est The Man Behind the Mask, qui nous raconte un peu l'histoire de Jason, qui a été chantée par Alice Cooper, qui était à la mi des années 80 un artiste qui avait pris un tournant très 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 pop, presque glam rock. Donc c'est vraiment C'était plus le Alice Cooper classique. Donc, il allait avec des chansons comme ça. Il y a eu une autre chanson aussi dans le film qui s'appelait Teenage Frankenstein qui jouait également. Je ne le ferai pas jouer celle-là. Mais bon, vu qu'on veut rendre hommage à notre thématique d'aujourd'hui qui est les superstitions et plus particulièrement le vendredi 13, on va aller écouter He's Back, The Man Behind the Mask. D'ailleurs, un super beau picture disc de Alice Cooper, un disque d'interview, comme c'est le cas pour plusieurs picture discs de première génération, auquel on peut voir un Alice Cooper avec le masque d'Alice Cooper dans la main. C'est une pochette qui est tout à fait débile, puis ça me fait penser à Carole Bouchard, là, qui me montre souvent sur Internet là, son mur plein de picture discs. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, ce que c'est un picture disc, là, c'est... au lieu de mettre un vinyle noir, c'est qu'ils mettent comme une image en dessous et ils font graver le disque par-dessus un vinyle transparent. Ça fait que le vinyle, au lieu d'être noir, il y a une belle image dessus. La qualité en souffre beaucoup en termes de son. C'est pas quelque chose qu'on peut faire jouer. Là. Même tu le fais jouer 5-6 fois puis il commence déjà à être super usé. Là. C'est pas fait pour être joué. Peut-être une fois quand tu le reçois, mais c'est vraiment quelque chose là, qui est un item de collection pour mettre sur un mur. Et ben, en fait, c'est mon plus beau picture disc. J'en ai peu, là, mais c'est mon plus beau. J'ai pas le choix, hein. Quand on pense, il y a un autre super vilain, en fait, là, qu'on connaît, puis j'ai esquissé tantôt, parce qu'ils ont fait un film culte, là, dans les années 2000, c'est Freddy. Lui aussi, je veux faire sa genèse un peu, parce que, bon, les gens le connaissent, mais c'est quoi l'histoire, en fait, de Freddy? Elle est super intéressante aussi, puis c'est pour ça que le premier film est un vraiment très bon film. Puis, ben, suite à ça, ça se gâte pas mal. Il y a peut-être le troisième qu'on en reparlera un peu. Là, je vais faire un peu l'historique de Freddy. En fait, Freddy est une malédiction de la même façon que Jason. Mais lui, en fait, c'était un homme qui aimait beaucoup les petits-enfants. C'est pas nécessairement dit que c'est un pédophile, mais en fait, ça... Je pense que la censure dans les années où ce que le premier film est sorti, c'était pas clair, fait qu'ils l'ont jamais dit, mais en tout cas, chose certaine, il kidnappe des enfants, puis on les retrouve morts, puis il brûle dans sa fournaise, dans son sous-sol, puis les parents s'en rendent compte, puis ils échappent à la justice, je ne me souviens pas pour quelle raison, et les parents décident de se venger eux-mêmes de Freddy en faisant brûler son corps dans la fournaise. Et Freddy, en fait, revient. Sous forme de malédiction, parce que bon, c'est ça, c'est un fantôme, Freddy, au départ, et il vient tenter de tuer les enfants pour faire chier les parents qui l'ont tué. Donc, c'est sa raison pourquoi il hante la vie des adolescents. Et en fait, ben, il y a toute une histoire, il meurt, il hante les rêves, et surtout, c'est ça qui est intéressant, c'est que Freddy t'attaque pendant tes rêves. Donc, et si tu te fais tuer dans ton rêve, en fait, Freddy a gagné, t'es mort pour de vrai. Le premier est vraiment excellent, parce que c'est lui qui reprend l'essentiel de l'histoire que je viens de vous conter. Puis par la suite, ben, ça se gâte un peu. Le 2 est vraiment pas bon, le 3 est pas pire, le 4 est pas bon, le 5 est pas bon, le 6 est encore pire. Honnêtement, moi j'aime moins Freddy que Jason beaucoup. Par contre, ils se sont repris d'une façon magistrale avec le Cauchemar insolite de Wes Craven, je me souviens pas du titre original en anglais, où c'est le personnage de Freddy qui revient hanter son créateur. Donc, c'est le vrai Wes Craven, celui-là qui a fait le premier film, le réalisateur et tout ça. Et Freddy vient le hanter dans ses rêves à lui. Donc, c'est un film d'horreur et ça reprend avec poésie, je dirais, certains thèmes de la mythologie de Freddy. Fait que ce dernier-là, en fait, je l'ai bien aimé. Mais bon, il reste qu'il y a le troisième, là, dans le milieu de tout ça, qui était quand même pas si mal, qui s'appelait c'est Dream Warrior en anglais, les guerriers de la nuit, je pense, en français. Et c'est que les gens se sont rendus compte qu'ils pouvaient prendre le contrôle de leurs rêves quand Freddy venait les attaquer. Et ils se remettent un peu comme en groupe, ils font comme une clique. Donc c'est ça, les Dream Warriors, c'est comme une équipe. Il y en a un qui est un ninja parce qu'il aime la gymnastique. Il y en a un autre qui devient un magicien dans ses rêves parce qu'il tripe sur Donjons et Dragons. Bref, c'est quelque chose de bien. Et c'est exactement dans les mêmes années que Jason 6 et The Man Behind the Mask qu'on a écouté tout à l'heure. La chanson a été reprise également par un groupe, la chanson thème a été reprise par un groupe qui s'appelle Dokken. Dokken, qui est un très bon groupe, qui est pas, ben, qui est très connu par les amateurs du genre, là. C'est vraiment comme du glam rock, là. C'est les vestes à franges, puis les cheveux longs, et tout ça. C'est vraiment très caractéristique de l'année, des années 85, 86, 87, dans ces eaux-là. Et Dokken est un groupe qui a pas passé à l'histoire comme les Multicrew et tout ça. On entend parler beaucoup moins. Ils sont moins populaires, disons, par les gens qui connaissent pas le style musical. Mais dans ce qu'ils font, sont vraiment excellents. Et ils ont fait la chanson Dream Warriors, qui est la chanson de Freddy 3. Et bien que c'est un bon film, je l'ai réécouté dernièrement, puis c'est très difficile pour moi de vous le conseiller. Parce que c'est bon, mais il existe mieux. La toune est bonne en maudit, par exemple. Dream Warriors.
I
Alors voilà. Si vous aimez ça, là, ça fait très, très Def Leppard, très Bon Jovi des premières années. Puis des fois, ben, quand on veut écouter ce style de musique-là, on finit toujours par écouter les mêmes albums, là. Mais je vous conseille fortement d'aller écouter Dawkins. Je vous ai demandé sur mon Facebook, puis malheureusement, Facebook m'a pas bien servi ce matin. Il y a eu un problème avec Facebook, tous les statuts étaient dédoublés. Et ben, en fait, on dirait qu'ils ont effacé les commentaires que j'avais écrits. Ben, que les gens m'avaient écrit. Je m'en souviens de deux, par contre. La question, j'ai demandé, êtes-vous superstitieux? Et Maxime Tifo m'a dit qu'il avait pris l'habitude, quand il enfile des vêtements, de toujours enfiler le bras droit avant le bras gauche. Donc, ouais, ça, je te confirme, mon cher, que c'est un toc. Puis j'ai, j'ai Sébastien qui me dit que lui, il avait pris l'habitude de mettre des bas de pas de la même couleur ou pas du même motif. Ça, ben, j'ai répondu que c'était pas une superstition, c'est juste qu'il était paresseux puis que mes enfants faisaient pareil. Fait que il me répondait avec un sourire. Donc voilà, je pense que j'ai pas un public qui est très superstitieux. J'avais peut-être d'autres commentaires, mais malheureusement, comme je vous dis, je les ai perdus. Malheureusement. Je veux aussi, on va quitter un peu, on est pas mal dans le hard rock dans les derniers podcasts. Je veux vous inviter aussi, pour 5$ en fait, vous pouvez changer la thématique d'un podcast en cours. Comment ça fonctionne? C'est que vous allez sur ma page Facebook, puis il y a un petit lien, un bouton acheter en fait. Et avec ce bouton-là, acheter, qui est juste en dessous de ma bannière, vous faites un don de 5$ par PayPal, juste une fois, et vous me donnez un choix de thématique ou un choix de 3 chansons. Donc vous venez le maître d'œuvre de mon podcast pendant une 15 minutes, c'est votre 15 minutes de gloire, vous cassez l'ambiance, vous choisissez, on parle de vous pendant 15 minutes, vous êtes content, moi aussi, puis j'aime beaucoup ça quand vous faites ça, puis honnêtement là, donnez-moi des thématiques fucked up, là. Tu sais, quelque chose que vous dites, j'ai aucune idée de ce qu'il va faire si je donne la thématique des bas bruns, tu sais. Quelque chose vraiment là, de d'inusité. Fait que je vous mets au défi. Et j'invite aussi particulièrement les femmes à me donner des sous. J'en ai une qui l'a faite, qui était Chantal Ferland, mais c'était pour la fête à son chum. Ah oui, c'est vrai, il y a quelqu'un, je me souviens pas qui me dit que frapper la bédaine de Yann Thériault, ça portait chance. Mais je me souviens pas qui, donc il y a vraiment quelqu'un. Ah oui, c'est Rémi Rebelle qui me dit ça. Donc paraîtrait-il que de frapper la bédaine de Yann Thériault apporte la chance. Donc je vous invite quand vous voyez Yann Thériault y taper la bédaine pour la chance, voilà. on va quitter un peu le monde du hard rock pour y aller avec une chanson qui s'appelle carrément Vendredi 13, qui est une chanson québécoise qui a été faite sur le premier album solo de Michel Normando. Est-ce que c'est son seul album solo? Je pense que oui. Michel Normando, qui est un ancien d'Harmonium dans le trio vraiment original, là, donc vraiment un membre, pas un membre qui a été là juste sur l'heptade, là, quelqu'un qui a été très très impliqué dans l'œuvre de Harmonium. Et ben, la chanson s'intitule « Vendredi 13 ». Alors, vous allez voir, c'est une très courte chanson instrumentale de notre cher ami Michel Normando. Ça va nous changer un petit peu du hard rock. Thank you. Alors, c'était Vendredi 13. Honnêtement, je sais pas trop ce qui a pris son inspiration. Probablement qu'il l'a écrit un Vendredi 13. Là. Je vois pas rien de Vendredi 13 là-dedans. C'est plutôt une chanson à la limite mélancolique, là. Ça me tente pas de vous laisser sur une chanson québécoise qui était quand même assez, en fait, trop tranquille à mon goût. Fait que je vais tout de suite enchaîner avec une autre chanson qui s'appelle Vendredi m'obsède des Hooloops. Juste parce que je veux rester dans le québécois, mais qui bouge un peu plus. Puis c'est Vendredi m'obsède, ça fit.
Lundi, ça ne va pas du tout. Les gens semblent se narguer. Oui. À la vie, moi je reprends goût. Le mardi, malgré la pluie. Je dis que c'est lent. Je dis tout dans rond. C'est vendredi qui m'obsède. Je m'enlise vers la ville. Et la fille que j'ai choisie sera là ce soir. Je suis là tremblant d'espoir.
Ce soir
je n'ai plus d'argent.
Ce soir
je perds la tête.
Ce soir
dès que je la vois.
Ce soir
dès le lundi vendredi m'obsède. Encore 5 jours à peiner. C'est à recommencer. Oui. Je travaille du soir au matin. Et pourtant je me suis bien. Aujourd'hui rien ne va, mais demain ça ira. C'est vendredi qui m'obsède. Je m'en irai vers la vie. Sera là ce soir. Je suis là tremblant d'espoir. Je n'ai plus d'argent. Je perds la tête. Dès que je la vois. Dès le lundi vendredi m'obsède. Je m'enlise vers la ville avec la fille que j'ai choisie. Je m'enlise vers la ville.
C'était les Hooloops. Et leur chanson reprise qui s'appelle c'est pas une chanson d'eux autres, ça. S'appelle Friday. Attendez, je vais aller chercher la pochette. Qui s'appelle ça. La chanson c'est Friday on My Mind, mais je pourrais pas vous dire c'est qui l'a fait à l'origine. Mais les groupes des années 60, c'est bien connu, hein, c'est tout ce qu'ils faisaient. C'était reprendre des chansons là, qui étaient déjà bien connues du répertoire anglophone. C'était ça qui était la norme à l'époque. Et voilà. Mais j'avoue qu'avec mon vendredi m'obsède, je m'éloigne un peu de ma thématique vendredi 13. En restant avec la thématique du vendredi, mais en éclipsant un peu le chiffre 13, et c'est pour ça qu'on va aller, on va en fait s'entretenir un peu de l'album 13, donc de l'album 13 de Black Sabbath. Pour la petite histoire, en fait, Black Sabbath était un groupe que vous connaissez déjà, mais qui ont sacré dehors Ozzy à grands coups de pelle, parce qu'il prenait trop de drogue et tout ça. Finalement, il a fait une carrière solo qui était très intéressante quand même, mais qui était moins musicalement intéressante. Black Sabbath est resté beaucoup plus musicalement intéressant que Ozzy, qui était devenu incroyablement pop. C'est devenu une icône quasiment de la musique pop et non pas de la musique métal. Mais Black Sabbath a toujours gardé cette lourdeur-là en multipliant les chanteurs. Et on en a parlé beaucoup dans les derniers podcasts. Il y a un chanteur qui s'appelait Dio qui est décédé en 2010. Et c'était un peu le chanteur officiel du band. Et quand il est mort, ben ça a mis fin un peu aux activités de Black Sabbath. Et mais on a appris en fait que les deux musiciens principaux ont commencé à composer des tunes, mais à ce moment-là, on ne se doutait pas que Ozzy Osbourne allait revenir dans l'entourage de Black Sabbath, ce qu'il avait déjà fait pour des spectacles, pour des choses comme ça, mais jamais pour l'enregistrement d'un nouvel album. Écoutez, c'était unexpected, c'était pas attendu. C'était en 70. En fait, le dernier album où il y a une participation. Un dernier album studio où il y a une participation de Ozzy Osbourne dans Black Sabbath, on parle de 78. L'album rassemble le line-up original de trois musiciens originaux, sauf le drummer qui a décidé de ne pas participer à la tournée. Je ne suis pas sûr s'il a participé au disque, je pense que non. Mais c'est vraiment quelque chose. Ils ont été capables de reprendre l'essence du tout début de Black Sabbath, où c'était très noir puis très dark. Et la chanson que je vais vous faire écouter s'appelle God is Dead. Vous allez entendre toute ce côté étrange là, de la musique de Black Sabbath. Là. Quelque chose de bien, bien inquiétant, là, comme on aime. Mais voilà, c'est possible des fois hein, pour un disque, pour un album, pour un artiste de faire des choses merveilleuses même après 50 ans de carrière.
Ashes to ashes.
Calique que c'est bon. Honnêtement, c'est... Ah, que ça me plaît ce genre de musique-là. Je suis tellement fier que des artistes comme ça, tu sais, ils ont... Ça, regarde, ils ont quoi? Ils ont quasiment 70 ans, là, les gars de Black Sabbath, qui soient capables de sortir ça. On s'entend que sortir un album là, en 2017, c'est pas payant. Là. Ce qui est payant pour eux autres, c'est de sortir des compilations, sortir le vieux hit, puis à la limite faire une tournée une fois de temps en temps. Mais c'est clairement pas de faire des nouveaux albums, parce que personne ne veut entendre les nouveaux albums. Les gens qui se connaissent pas trop en musique ou qui vont voir Black Sabbath en show, là, ils veulent entendre Paranoid, ils veulent pas entendre God is dead. Là. Bon, exception faite, il y en a quand même qui veulent entendre les nouvelles chansons. Là. C'est un peu préjugé de dire ça, mais quand même, tu sais. j'aime bien dire on veut jouer une toune de notre nouvel album. Bouh! C'est souvent comme ça, tu sais. Fait que. Écoute, moi, ça m'impressionne bien gros ce disque-là. Puis je remercie bien gros Black Sabbath de nous avoir sorti quelque chose. Honnêtement, j'espère pas un nouvel album, mais. Peut-être. Hey, comme dernière chanson, j'ai pensé à quelque chose qu'on pourrait faire. Puis là, je vous jure que c'est pas stagé fuck all. Là. On va y aller. Peu importe qu'est-ce qui va sortir de là. On est vendredi 13 aujourd'hui. Je vais aller chercher le 13e disque du 13e quinçon de mon étagère. Puis on va faire jouer la toune 13 de l'album. Puis si jamais j'ai pas de toune 13 sur l'album, ben à ce moment-là, ben on va aller chercher, je sais pas, le disque à proximité qui a une 13e toune dessus. Fait qu'on va y aller. On va choisir, je sais pas si vous m'entendez encore, je vais parler un peu plus fort. Donc le 13e caisson, le 13e disque, ah ben Colin, on est dans le Pink Floyd, et le 13e disque de ça, ça se trouve à être, attends un petit peu, ok, je l'ai ici. Ah, ben oui, on l'a fait déjà jouer, ça, c'est Back Against the Wall. C'est un album de Pink Floyd qui a été repris par des albums, par des artistes surtout connus de studio. En fait, il y a plein de monde là-dessus qui ont travaillé, du monde qui ont travaillé avec Frank Zappa, puis avec bien d'autres personnes aussi. Puis la chanson, la 13e chanson, ça doit être quoi? C'est-tu la première, du deuxième? Ça se peut-tu que ça s'appelle Hey You? Ben non, la 13e, oh Colin, ça fait... Ça fait un peu weird. La chanson, c'est... bon, commençons par ça. Elle est écrite... ben, pas écrite, elle est écrite par Pink Floyd, mais elle a été faite par Billy Sherwood, qui est un ancien, en fait, de Yes, qui est le producteur, en fait, de cet album-là, d'ailleurs. Et Tony Levin, qui est un artiste qui a travaillé, si je ne me trompe pas, au sein de King Crimson, puis il a travaillé aussi avec Peter Gabriel. Donc, vous voyez un peu l'image, tout l'album a été fait, en fait, par des musiciens de studio. Des gens qu'on ne connaît pas nécessairement, mais qu'on a entendu les instruments sans nécessairement le savoir sur ben des artistes, ben des disques de prog. Oh, hey, Goldball Cruel World. Une chance que je le mets en perspective, parce que si j'avais fait jouer cette toune-là sans rien vous dire, vous auriez peut-être pensé que je voulais me tirer une balle, mais c'est pas le cas du tout. Cet album-là, d'ailleurs, sur parlons un peu de The Wall, j'aimerais ça parler un peu du film de... vu qu'on est là, du film de 82. Je sais pas si vous avez vu ça. Il y a un film qui existe qui s'appelle The Wall, c'est pas un film de vidéoclip, c'est un feature film. C'est un gros vidéoclip d'une heure et demie. C'est vraiment excellent. Ça ressemble pas du tout à ce que les Beatles ont pu faire quand ils ont sorti des films. Là. On voit pas Pink Floyd dans le film, en fait. C'est comme une mise en... C'est ça, c'est un gros vidéoclip qui dure une heure et demie, qui varie entre des scènes où ce que c'est du acting, puis des scènes où ce que c'est des dessins animés, puis le tout est fait avec un super, super bon rythme. Fait que si vous avez pas vu ça, là, le film The Wall là, de 1982, là, courez à votre à votre club vidéo le plus proche et allez louer la cassette de The Wall ou allez chercher un torrent, là, c'est peut-être plus efficace comme ça. Donc on va finir ça, ce podcast-là, avec Goodbye Cruel World, mais je vous jure que je suis pas en train de me coûter une balle.
Change my mind. Goodbye.